Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Apprendre à faire l'amour est son plus récent ouvrage publié chez Alary en mai 2022, donc tout récemment. Il est directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, cofondateur de l'école d'écriture Les Mots, et également philosophe, écrivain et professeur à Sciences Po. Avec son livre « Apprendre à faire l'amour », il aborde le thème du couple ou des relations par de très courts chapitres portant chacun sur une facette ou un moment de la relation sexuelle. Préliminaires, rythme, changement de position, orgasme, aucun sujet n'est éludé, mais ils sont tous traités en philosophe pour nous mettre sur la voie d'un acte amoureux authentiquement accompli. Avec lui, durant cet épisode, nous abordons les liens étroits et croissants entre sexualité et capitalisme à l'heure du tout digital, le dégoût que peut provoquer la marchandisation du désir, la sexualité comme prolongation d'un statut social, la circulation du pouvoir durant l'acte sexuel, point d'interrogation, la pornographie et le racisme sur YouPorn, et enfin son conseil à destination des parents. À commencer par moi. Je souhaite sincèrement que cet épisode va vous instruire autant que ce fut le cas pour moi. Et surtout, lisez le livre et mettez-le entre les mains des ados. Ça pourra certainement leur servir. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Je suis lectrice de Philosophie Magazine. Pas depuis 2-3 mois, je pense que j'ai fait une erreur en achetant pas le dernier numéro. Mais sans plus tarder, Alexandre, est-ce que je peux vous demander de vous présenter autant d'un point de vue personnel que professionnel, en nous disant que ce que vous voulez nous dire, hein, bien entendu.
Il est évidemment plus facile de se présenter du point de vue professionnel que du point de vue personnel. Ce que je peux dire, c'est que j'ai une multitude d'activités qui sont toutes connectées à l'écriture et à la lecture. Mmh. Et donc, parmi ces activités, il y a l'écriture d'essais, de romans. Je suis directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, effectivement, mmh, depuis la création du journal en 2006. J'enseigne à Sciences Po les humanités politiques, l'écriture créative. Et j'ai créé une école d'écriture, enfin je suis cofondateur. Qui s'appelle Les Mots. Et donc ça, ce sont mes activités. On voit qu'elles sont en fait reliées par un souci de transmission, de pédagogie, et puis le goût des mots. Et derrière le goût des mots, je dirais le goût des idées, c'est-à-dire le souci constant d'essayer de poser les mots les plus justes possibles sur... Sur ce qu'on vit. Au fond, ce qui relie aussi mon travail, c'est que je pars toujours de questions que je me pose, pas de questions tellement académiques, théoriques ou qui seraient, disons, débattues actuellement dans l'univers universitaire ou l'univers intellectuel. Les questions qui vont être des moteurs pour moi, ça va être des questions vécues. J'ai écrit par exemple un roman, La naissance d'un père, sur l'expérience de la paternité. C'est un roman autobiographique. Il se trouve que j'ai 5 enfants. Où j'ai écrit un essai sur la beauté de la nature, devant la beauté de la nature. Pourquoi j'ai écrit là-dessus? Parce qu'après mes études, je ne suis pas rentré tout de suite dans la vie active. Je suis allé vivre à la campagne, dans le sud de la Bourgogne, pendant 6 ou 7 ans. Mmh. Et que quand je suis revenu à Paris, le contact avec les éléments, avec la campagne, avec les forêts m'a manqué. Donc je me suis mis à écrire sur notre relation esthétique au monde et au paysage. Et de la même manière, l'essai qui vient de paraître sur la sexualité, apprendre à faire l'amour, et un essai que j'ai écrit parce que, voilà, je pense que je ne suis pas exceptionnel en l'occurrence, mais il se trouve que je pense, voilà, souvent à la vie érotique, à ce que signifie, à la portée existentielle de l'érotisme, de l'union sexuelle, et je me demande un petit peu, enfin, moi je trouve qu'elle est toujours qu'on en rabaisse le sens ou qu'on en rabaisse la portée. C'est-à-dire que, au fond, ce sont des moments de plaisir, mais il n'y a pas que le plaisir, il y a la mise en danger de soi, la découverte de soi-même et de l'autre. Et il se joue beaucoup de choses, en fait, dans nos relations érotiques et dans nos relations sexuelles. Et j'ai l'impression que le discours qui tourne autour de ces relations sexuelles, il est, soit gaulois, soit c'est un peu la gaudriole, l'humour, soit un peu, il y a des représentations pornographiques, mais au fond, c'est pas un discours juste, justement. Mmh. C'est pas un discours qui en déploie vraiment la résonance existentielle.
Mmh. On va peut-être juste rapidement évoquer le fond du livre. Apprendre à faire l'amour, finalement, ça implique que ça s'apprend. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas inné, que vous avez peut-être eu le sentiment qu'aujourd'hui, il fallait remettre un peu l'église au milieu du village, passez-moi l'expression, mais au sens où on est dans une ère où le sexe a été c'est une affaire qui a été emparée par les technologies, par le capitalisme, par... ça se retrouve au milieu de notre société, et peut-être pas de la bonne manière. En tout cas, moi, en lisant votre livre, je me suis dit, j'ai un petit garçon, bon, il est tout petit pour le moment, mais je me projette en tant que mère d'un adolescent et je me suis dit, ce serait pas idiot de lui mettre entre les mains. Parce que est-ce qu'on peut dire que... Alors, je réduis pas du tout votre audience à des adolescents, hein, au contraire, je me suis retrouvée aussi dans votre livre, ça parle à plein de générations. Mais finalement, c'est un petit peu un ouvrage, une sorte de... J'ai été d'ailleurs étonnée parce que vous êtes philosophe, mais finalement, ça reste quand même un... arrêtez-moi si je me trompe, mais une sorte de manuel d'apprentissage. Enfin, ça remet les bases assez de manière assez terre à terre finalement pour nous expliquer que ça s'apprend et qu'il faut désapprendre peut-être certaines choses qu'on nous a mis dans la tête depuis toujours. Enfin, depuis, j'aime pas le terme toujours, mais depuis très longtemps en tout cas.
Oui, alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Le premier point, c'est que certes, c'est un manuel. Moi, je revendique plutôt l'appellation d'art érotique. C'est un art érotique. C'est une tradition littéraire, les arts érotiques. Le plus célèbre dans notre tradition occidentale, c'est l'art d'aimer d'Ovide. Donc, c'est un art érotique. La distinction peut-être entre manuel et art érotique, c'est que dans un manuel, on s'attend peut-être à trouver des schémas, des positions, des conseils pratiques. Moi, c'est plutôt des pistes à explorer, des réflexions, une manière de valoriser l'acte sexuel. C'est vrai que ceux qui liraient avec vraiment qui voudraient quelque chose qui serait comme les schémas des 64 positions du Kama Sutra, ils trouveront pas ça.
Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'était au sens où vous essayez quand même de à travers des définitions, à travers les chapitres que ce sont des chapitres assez courts qui vont essayer de différencier les instants de l'amour, en fait, de l'acte sexuel.
Oui.
Donc, en cela, on arrive déjà par la cadence des chapitres à remettre des mots sur des choses qui sont peut-être un peu naturelles ou pas naturelles, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, il y a une trentaine d'aspects de la relation sexuelle qui sont explorés, qui vont des cris, des conversations qu'on a pendant qu'on fait l'amour, à la question de l'orgasme, toutes ces questions sont éclairées. Alors, un autre aspect de la question, c'est par rapport aux jeunes. Moi, je pense effectivement qu'un jeune garçon qui fait son éducation sexuelle aujourd'hui va la faire à travers les discussions avec les copains, les expériences, aussi à travers la pornographie, qui est quand même très accessible. Et donc, les premières expositions au site porno arrivent entre 11 et 13, 14 ans, pour les garçons comme pour les filles. Donc, une partie de l'éducation passe à travers ces vidéos. Le problème que ça va poser, ça va poser immédiatement deux problèmes, je pense, pour un jeune garçon. La première chose, c'est qu'il va voir énormément de vidéos dans le porno mainstream où les femmes n'ont pas de plaisir. Donc, il a déjà accès à une représentation des choses où certes la virilité est valorisée mais où le plaisir féminin est absent. Et puis l'autre chose, il y a une injonction indirecte de performance, puisque par la magie du montage on a des acteurs qui sont infatigables, qui peuvent paraître très intimidants, je sais pas, pour un jeune garçon, un jeune adolescent, ces hommes qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont particulièrement bien membrés, c'est un peu ça peut être un peu angoissant,
et puis complexant, en plus, complexant. À des âges où on se remet déjà déjà suffisamment en question. Donc
voilà, c'est pas évident. En plus, ils semblent avoir des partenaires toujours disponibles, prêts à réaliser les moindres de leurs caprices. Donc tout ça, c'est pas... C'est, la partie est un peu mal engagée. Et au fond, il me semble qu'il y a relativement peu de discours qui vont, au contraire, valoriser, tout simplement dire que c'est, ça peut être beau, la sexualité, que c'est multisensoriel et pas seulement visuel.
C'est ça.
Que, donc effectivement, la pornographie amène à donner un primat à la vue. Mais en réalité, il y a l'écoute, il y a évidemment le toucher, le goût. En fait, les cinq sens communs sont entièrement mobilisés, les odeurs évidemment. Donc les cinq sens communs sont complètement mobilisés quand on fait l'amour. C'est pleinement un moment esthétique, puisque l'esthétique au sens propre concerne le plaisir des sens. Et donc ces dimensions-là, elles sont un peu occultées. Voilà, donc effectivement, il y a quand même l'idée aussi de permettre, enfin de donner des outils pour se libérer un peu de certains carcans, certaines routines.
Alors j'ai peut-être une déformation professionnelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même, dans le fond... un plaidoyer, alors s'il n'est pas féministe, en tout cas il est humaniste et finalement en vous lisant, j'ai eu le sentiment moi de lire certaines parties évidentes, ce que vous venez de dire sur la position de la femme dans la pornographie, etc. Enfin, étant une femme, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que j'ai eu un peu aussi le sentiment que ça aurait pu aussi s'appeler apprendre à s'aimer, tout simplement. Enfin, même si la sexualité est au centre, mais je me trompe en disant ça ou pas ?
Non, déjà j'emploie le mot faire l'amour, ce qui est pas une évidence. Dans le langage courant, on pourrait dire coucher, baiser,
faire le sexe.
Sexe, c'est ce que disent les jeunes de plus en plus. Et je me suis aperçu avec les rencontres que je fais autour du livre que les sexologues le disent aussi. C'est drôle.
Bon
donc
d'accord.
Il y a les ados et les sexologues qui disent faire le sexe. Il me semble que ce champ lexical, un peu plus cru, faire l'amour, ça a l'air d'être romantique comme expression, et même un peu surannée quand même, ça fait un peu vieux jeu. Mais il me semble que l'expression a ce mérite, qu'elle donne une place à autre chose qu'au corps, et c'est-à-dire aux émotions, aux sentiments au sens large. Alors moi, je présuppose pas qu'on doit s'aimer pour faire l'amour, c'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, je suis convaincu que même dans des scènes... je sais pas, même dans des backrooms ou dans des orgies, les gens en fait continuent d'être troublés en fait, émotionnellement et sentimentalement, parce qu'ils sont en train de vivre. Ils le montrent pas toujours, ils n'en parlent pas toujours, mais je crois assez peu à du sexe blasé ou complètement mécanique. En fait, il me semble que c'est pas tellement accessible ça à l'être humain, d'être complètement blindé comme s'il ne se passait rien. D'ailleurs, si on peut être atteint, je veux dire, si on peut être blessé, s'il y a des traumatismes sexuels, c'est bien que ce qui se joue dans le l'acte physique est aussi d'ordre psychique et d'ordre très intime et intérieur. Je veux dire que on peut pas être blessé psychiquement par une partie de tennis qui se déroule mal. On peut être blessé psychiquement et même traumatisé pour de longues années par un rapport sexuel qui se déroule mal ou dans lequel il y a une brutalité. Donc ça veut dire que quelque chose est en jeu qui n'est pas que le corps. Et faire l'amour, ça dit ça.
Alors, vous remettez en question Freud en utilisant un terme, enfin, vous avez créé un terme qui est le Freud porn. C'est-à-dire que c'est un mix entre l'objectif, hein, je ne sais pas, encore une fois, arrêtez-moi si je me trompe, mais un mix entre cette obsession de la jouissance effective, en fait, le fait que chacun arrive à jouir à la fin d'un acte, et je pense, j'aime pas trop les raccourcis, mais Freud évoquait cela. Avec des séquences qui seraient des dérivés de tout cela, des séquences pornographiques. Enfin, comment vous expliquez la notion de Freud porn, en fait ?
Alors, c'est un néologisme que je propose pour qualifier la manière dont on fait l'amour aujourd'hui de manière majoritaire. Si jamais vous essayez de vous visionner intérieurement le film, en fait, vous avez un nouveau partenaire, qu'est-ce que vous allez faire si vous allez faire l'amour ? Il est probable que vous allez suivre un scénario qui est en fait un scénario culturel, qui est bien un scénario qu'on a appris, et qui est un scénario qui mélange des éléments de psychanalyse et des éléments de pornographie. Je vais être plus précis. Dans ces trois essais sur la théorie de la sexualité, Freud, donc un ouvrage de 1905, Freud explique que rapport sain, complet, normal, est composé d'une succession de phases. Donc il y a un cycle sexuel qui commence par les préliminaires, c'est Freud qui invente la notion de préliminaire, qui se poursuit par la pénétration de la femme par l'homme. Là, il doit y avoir gradation d'intensité, et puis enfin, éjaculation de l'homme à l'intérieur de la cavité vaginale. Il exclut du rapport sexuel sain et normal l'homosexualité, hein, donc on est dans un texte qui range l'homosexualité parmi les perversions, ce qui est problématique. Mais il y a d'autres choses qui sont problématiques, c'est-à-dire qu'on sent que chez lui, le cycle sexuel ou l'activité sexuelle est moralement justifiée parce que la sexualité a une visée procréative. Donc en fait, on doit faire comme si on était en train de procréer. C'est évidemment faux. Les êtres humains font 192 milliards de fois l'amour par an.
Alors ce chiffre aussi m'a beaucoup étonné.
Il est super, c'est les démographes. Mais 192 milliards de fois, alors s'il naissait autant d'enfants, c'est même plus une crise écologique. La Terre serait calcinée depuis
donc
longtemps.
Donc on est 7 milliards environ, si on fait le total.
Il y a des enfants et des personnes âgées, donc c'est toujours un peu compliqué. Mmh. Mais disons que si on se dit qu'il y a 5 milliards de personnes sexuellement actives, à peu près, si vous dites que 192... vous voyez, c'est 30-40 fois par an, quelque chose comme ça. C'est pas un chiffre absurde, c'est une estimation produite par les démographes. Alors, en tout cas, ça signifie une chose, c'est que la sexualité humaine n'a rien à voir avec la procréation. Elle est créative, elle est plastique, elle a lieu à des âges de la vie où on ne cherche pas à procréer, ou même d'ailleurs où procréer serait un malheur quand on est trop jeune ou peut-être trop âgé, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. On a cette sexualité qui est très protéiforme, et le schéma freudien lui assigne une finalité quasi procréative. Ensuite, notre manière de faire, je dirais que c'est ce cycle sexuel freudien fait des préliminaires, de la pénétration, puis de l'éjaculation de l'homme à l'intérieur de la femme. Bon. Mais revisité ou agrémenté ou pimenté, on pourrait dire, par l'influence du porno. C'est-à-dire que ce qu'on fait quand on est dans un schéma ou un scénario Freud porn, c'est qu'on est en train de déployer ou de performer le cycle sexuel freudien sur un mode un peu sportif, un peu décomplexé, un peu actif. Mais en fait, on s'embête pas mal. La moralité de tout ça, c'est que ça fait de l'activité sexuelle quelque chose d'un peu prévisible, parce que c'est très normatif, parce que c'est linéaire, parce que les étapes se déroulent toujours dans le même sens, parce qu'on peut pas s'attarder sur les préliminaires, parce que toutes les caresses qui ne sont pas la pénétration sont confinées au début, parce qu'il n'y a pas de changement de rythme. Donc on est dans quelque chose qui est d'une grande monotonie.
Oui, d'autant plus que la rencontre est devenue monotone. C'est-à-dire qu'avec... Enfin, je fais un parallèle, je pense que votre livre arrive au bon moment, au sens où on est quand même dans une période, je parlais des technologies tout à l'heure, mais on a déjà tapé lourdement le désir, en fait, en transformant la rencontre en objet de consommation massive. Si en plus on ajoute à cela une manière de faire l'amour assez rudimentaire, je me dis, mais on nous coupe de tout, en fait, techniquement parlant. Il y a plus de... c'est compliqué de trouver une part de bonheur ou d'épanouissement sur ce domaine-là aujourd'hui, je pense.
Bah d'abord, de manière générale, le désir, c'est l'aliment même, c'est le moteur du capitalisme. C'est évident que on peut créer des sociétés d'abondance comme la nôtre que lorsque, au-delà des besoins naturels et nécessaires des êtres humains, on leur invente des désirs pour telle nouvelle robe, pour telle paire de chaussures, pour tel vélo à la fibre carbone incroyable. Donc on invente des désirs, on crée des désirs artificiellement, et que c'est l'aliment même du capitalisme. C'est ce qui tire en fait la production, c'est la création, c'est la prolifération de ces désirs artificiels. Et de ce point de vue-là, on voit bien que la sexualité humaine, dans son caractère protéiforme, a été captée par des outils qui émanent de la logique capitaliste. Ces outils sont par exemple les sites porno dont j'ai déjà parlé, mais aussi les applications de rencontres. Et dans ces applications de rencontres, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une fiche produit. En fait, la description que vous pondez vous-même de ce que vous êtes avec votre photo, bah, c'est une fiche produit. Une chose que vous ne savez pas, c'est que vous avez aussi un prix. Ce prix, en fait, il vous est donné par l'algorithme. Vous avez une cote de désirabilité quand vous entrez sur un... ça marche comme un tournoi d'échecs avec les points, les élos. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un vous choisit qui a une meilleure cote de désirabilité que la vôtre, vous montez. Si vous choisissez quelqu'un qui a une cote de désirabilité inférieure à la vôtre, vous descendez. C'est ce qui fait que l'algorithme, par les simples interactions, par les simples swipe droit ou gauche que font les utilisateurs, vont permettre de gérer votre cours comme un prix coté en bourse. Et que donc, ils ne proposeront pas, disons, à un homme de 55 ans, une jeune femme de 22 ans qui ressemblerait à une poupée Barbie. Ça ne sera pas proposé parce que les codes de désirabilité ont dans ce cas-là un écart important. Alors, on voit bien que commencer à s'aventurer là-dedans, enfin, on n'est pas toujours conscient du fonctionnement des algorithmes, mais ça veut dire que quand même, on va se traiter soi-même un peu comme un produit au supermarché. Et la relation sexuelle, dans ce cadre-là, elle est, moi c'est ce que j'appelle la satisfaction en un clic, c'est-à-dire que c'est un peu comme se commander une pizza à 3h du matin. Est-ce qu'on a besoin d'une pizza à 3h du matin? Je veux dire que ça produit une satiété, mais une satiété de courte durée.
Bien sûr.
Et souvent comme la junk food, un peu de dégoût, de dégoût de soi, de dégoût de l'autre. Donc disons que c'est une jouissance, d'accord, mais une jouissance de mauvaise qualité. Et effectivement, il faut à ce moment-là sortir de cette vision d'une sexualité réduite à l'état de marchandise pour accéder à autre chose. Ce que j'en ai déjà un peu parlé, mais pour moi, c'est de se dire qu'on est en train que c'est une activité créative. C'est-à-dire que c'est le moment sexuel, ce serait à prendre comme une œuvre d'art vivante où on essaye d'exprimer ce qu'on est, un peu comme si on dansait avec quelqu'un ou comme si on jouait du jazz à deux et qu'on improvisait.
C'est ça. Et alors, il y a trois notions qui m'ont beaucoup marqué et qui font appel clairement aux droits de l'homme, mais enfin aux droits de l'homme au sens humain, c'est l'égalitarisme érotique, la circulation du pouvoir et la domination alternée. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, ça signifie que on essayerait dans son esprit de replacer chacun sur un mode égalitaire ou en tout cas peut-être pas égalitaire, mais sur un mode de pouvoir alternatif. Vous pensez que c'est réellement possible?
Ben, ce qui est clair, grâce à un travail qui a été mené par des féministes, mais notamment par Andrea Dworkin, à travers son livre Intercourseuse de 1987, c'est que le coït standard, le coït hétérosexuel standard, est très souvent appréhendé par l'homme comme un acte de possession ou d'invasion de la femme, un acte de domination, et que ce coït standard, il est intégré à un univers social dans lequel les hommes détiennent le pouvoir politique et le pouvoir économique. En caricaturant un peu, on pourrait dire que, en imaginant un couple traditionnel où l'homme serait le seul à travailler, il rentre, il prend chez lui sa femme qui ne travaille pas quand il en a envie et de manière un peu brutale. Ça veut dire que le type de sexualité qu'il va avoir avec sa femme dans ce cas-là, c'est une sexualité qui prolonge son statut professionnel et son statut social. C'est j'ai le pouvoir politique, le pouvoir économique et je prends le pouvoir sexuel sur toi. Alors, une fois qu'on a compris ce danger, c'est-à-dire cette idée que la domination masculine qui existe dans la sphère économique et politique se prolonge dans la sphère sexuelle, on se met à avoir plein de petits actes, et c'est ce qu'a fait Andrea Dworkin, mais plein de petits gestes ou plein de petites paroles comme des gestes en fait pas innocents. Je sais pas... le fait de certaines paroles qu'on prononce, le fait de d'assujettir le corps, de tenir les poignets, de mettre un coussin sur la tête. Enfin, vous pouvez imaginer toute une série d'actions. On voit bien que l'homme, à travers des gestes et des paroles, valide ou confirme sa domination sexuellement. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ce problème, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un monde idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas de domination masculine dans la sphère économique et politique, de telle façon que les actes dans la dimension sexuelle, enfin les actes ne seraient pas connotés politiquement et socialement de la même manière. On serait parfaitement égaux et à ce moment-là, on fait comme on veut. Mais ça, c'est un monde un peu idéalisé. C'est pas le monde dans lequel on vit. Dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'on a que deux solutions. On a une solution qui consiste à essayer de pratiquer ce que j'appelle un égalitarisme sexuel, où parfois je parle de sexualité en mode unisexe, c'est-à-dire où au fond on voudrait gommer dans l'acte sexuel tous les gestes qui pourraient être interprétés comme étant des gestes d'asservissement, de domination. Et donc à ce moment-là, on aurait une manière de faire l'amour, où l'homme se surveillerait, s'interdirait effectivement certains gestes forts, certaines paroles fortes, et où la femme aussi aurait à se surveiller pour ne jamais être complice de sa propre domination, c'est-à-dire jamais sembler être complaisante envers des postures de soumission. On sent bien qu'on va quand même pas mal s'embêter si on fait oui. des choses comme ça. De temps en temps, comme ça, en souriant, je dis que ce serait un peu une sexualité de casque bleu en mission de pacification,
ouais,
quoi. Quelque chose d'un peu. C'est une politisation presque à mauvais escient, en fait, je dirais, de la relation sexuelle. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Moi, il me semble que l'autre piste consiste à se dire que ce n'est pas le contenu des gestes ou des paroles et leur éventuelle brutalité ou la force qui s'y exprime qui est un problème. Le problème, c'est que les rôles soient toujours distribués de la même façon. Et qu'on peut se dire qu'il est intéressant de faire circuler le pouvoir et d'envisager les choses différemment, de se dire que quand vous dansez, par exemple, si vous dansez à deux, bah, l'un des deux mène. On n'a pas. D'ailleurs, c'est pas forcément celui. C'est pas forcément démonstratif quand on fait l'amour, l'un des deux mène. C'est la même chose que quand on danse, mais c'est pas forcément celui qui est au-dessus ni celui qui est en dessous. C'est pas forcément ça ne se lit pas forcément dans la position. Mais au fond, on sait bien que l'un des deux est en train de mener. Et ce qui me semble important, c'est que ce soit pas toujours dans le cadre du rapport hétérosexuel l'homme qui mène et la femme qui est menée. Si il y a alternance, alors à ce moment-là. On a une sexualité qui se délivre de certains motifs de domination, mais qui aussi permet à chacun d'explorer plus de choses. C'est-à-dire que par rapport au schéma standard, c'est une invitation pour la femme à aller à la découverte de sa propre puissance et de sa propre liberté et de l'autonomie de son désir. Prendre cette position de meneuse, prendre cette position active, c'est extrêmement intéressant et ça enrichit l'expérience. Mais pour l'homme, inversement, je dirais que se délivrer de cette espèce de charge qui consiste à devoir toujours guider en quelque sorte ou toujours dominer, tout d'un coup se découvrir passif ou explorer sa propre ou explorer une forme de nonchalance et de laisser aller, se délivrer complètement de l'impératif de performance, passer dans une autre dimension, c'est aussi très intéressant. Et donc on voit bien que contrairement à l'égalitarisme sexuel que je décrivais tout à l'heure, cette circulation du pouvoir elle ne diminue pas les possibilités de l'expérience, elle les enrichit. Donc c'est la solution à laquelle à laquelle j'ai pensé en l'absence d'une situation complètement satisfaisante. Une situation complètement satisfaisante, à mon sens, ce serait une situation d'égalité salariale, par exemple. C'est-à-dire, parce que là on est en train de parler de la sphère de l'intime, mais évidemment.
Les deux sont interconnectés.
L'important, c'est de comprendre que cette sphère de la chambre à coucher, de l'intime, est connectée à la sphère économique et politique.
Bien sûr. Qu'est-ce que vous voudriez... Vous avez fait, à mon avis, beaucoup d'interviews suite à la sortie de cet ouvrage en mai dernier. Enfin, oui, là, c'était début mai. Est-ce que vous n'avez pas encore dit quelque chose sur le livre que vous voudriez nous dire ?
Ben, ce qui n'est jamais tellement interrogé dans les interviews, c'est... toute une série d'éléments qui sont qui portent sur des petites choses en fait, c'est-à-dire sur les détails. On voit bien que quand je parle du scénario fraud porn ou quand je parle de circulation du pouvoir, je suis en train de poser, on va dire, des structures. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans l'écriture de cet ouvrage, c'est le fait d'écrire sur les phases d'immobilité pendant l'amour, c'est le fait d'écrire sur les larmes qui peuvent venir juste après un orgasme, c'est le fait d'écrire sur des subtilités comme par exemple une chose sur laquelle on m'interroge jamais, c'est quand si vous n'êtes pas du tout attentif au plaisir de l'autre. Bon, vous êtes dans une forme d'égoïsme. D'ailleurs, ça existe chez les hommes comme chez les femmes, mais cette posture égoïste est plutôt encouragée chez les hommes. Alors là vous êtes jugé. Mais quand vous faites attention au plaisir d'autrui, ça n'est pas pour autant que vous êtes altruiste, parce que vous pouvez...
Au contraire même, parfois.
Voilà, vous pouvez tout à fait être dans une situation où vous épiez le plaisir de l'autre, parce que le plaisir de l'autre, en fait, est un indice de votre pouvoir sur lui. À part si vous êtes une, je sais pas, une sorte de tortionnaire ou de psychiatre, ou en fait, vous avez, on a peu d'impact sur la vie intérieure d'autrui. Néanmoins, dans la sexualité, on en a un. C'est-à-dire que tout d'un coup, si y a ivresse sexuelle ou transsexuelle, on voit bien que l'autre peut être poussé dans des recoins de sa psyché où il ne va jamais. En gros, vous modifiez l'espace et les dimensions intérieures de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et on voit bien qu'il y a une forme d'attention au plaisir de l'autre qui consiste aussi à se délecter d'avoir ce pouvoir. Et là, je dirais que c'est quand même un léger danger, et que donc... Au fond, il ne suffit pas d'être attentif au plaisir de l'autre, encore faut-il que cette attention soit désintéressée.
Bien sûr.
Bon, et cette forme d'attention désintéressée, là encore, j'ai l'impression que la, le parallèle avec ce qu'on peut vivre dans la danse ou dans la musique permet de l'expliquer. C'est-à-dire que si jamais vous faites un duo en musique avec quelqu'un, vous devez écouter. En fait, vous devez écouter ce qu'il fait pour pouvoir vous-même renchérir et agir et moduler votre, jouer de votre instrument en fonction de la manière dont il, dont il joue. Et pour moi, ça c'est le bon type d'attention à ce que fait l'autre, c'est-à-dire ou à ce qui se passe dans l'autre. Ouais. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qualitatives sur lesquelles je suis rarement interviewé. Ouais.
Alors moi, ça m'est venu justement. J'ai écouté une interview, je sais plus où c'était, enfin une de vos interviews, et vous faisiez ce parallèle avec la musique, notamment, enfin avec la tonalité, avec la rythmie musicale, en tout cas danse musique, on va dire ça comme ça. Et alors moi j'ai découvert récemment, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, le drill, ou la drill, vous voyez ce que c'est ou pas?
Non.
Alors c'est une nouvelle forme, Eminem était le premier à le faire, et alors maintenant il y en a de la française, enfin française, et ça consiste à avoir un flux, c'est un de mes, je vis avec donc mon enfant et mon mari à deux garçons, dont un qui est à 14 ans, 13 ans, et il écoute ça, il nous met ça dans la voiture la dernière fois, et en fait c'est un phrasé incompréhensible, avec une suite de phrases.
Ah oui.
Alors j'ai lu les paroles, j'ai essayé de comprendre. Impossible. C'est-à-dire que j'ai forcément fait un parallèle avec votre livre, parce que je me suis dit, mais si ça c'est de la musique pour eux, si ça c'est le top du top pour eux, avec quelqu'un qu'on ne comprend pas, mais qu'on ne comprend pas du tout, même en lisant, je me suis vraiment interrogée sur comment eux vont faire l'amour, en fait. C'était la projection, c'est... parce que encore une fois, votre livre me parle, parle certainement à des gens qui ont plus de, je sais pas moi, peut-être plus de 18 ans, enfin, ou plus de 17, je sais pas. Mais je me suis vraiment posé la question sur la projection, c'est-à-dire comment on va faire l'amour, vous qui êtes un pro des technologies, je me suis posé la question, vraiment. À partir du moment où vraiment j'ai fait le parallèle entre la musique, cette musique-là qui m'a interpellée, et cette génération qui finalement n'a presque plus de contact humain, même. Enfin, il y a une grande partie des jeunes ados qui n'a plus de contact humain. Enfin, ils sont capables, pas tout le monde, hein, enfin, ça dépend certainement des milieux. Mais je pense que le confinement a joué beaucoup. Mais voilà, comment vous voyez la sexualité des très jeunes qui ont aujourd'hui 12-13 ans?
D'abord, je connaissais pas le mot drill, mais moi j'aime bien Eminem.
Non, mais moi j'adore Eminem aussi.
Je trouve que c'est un écorché vif et qu'il y a quelque chose.
Après les dérives de ça, et je vous écouterai. Enfin, je suis assez interloqué par le truc.
Je trouve que c'est un écorché vif et que ça s'entend dans son flow qui est très particulier, d'ailleurs immédiatement reconnaissable. Ce que je dis sur le rythme notamment, c'est que en fait, si on veut essayer de distinguer l'érotisme et la pornographie, aujourd'hui, on le fait souvent par analogie avec le monde du cinéma, enfin avec les films, et donc on va dire pornographique, on voit les parties génitales, on voit la pénétration, c'est interdit au moins de 18 ans, érotisme, c'est sans doute interdit au moins de 16 ans, au moins de 12 ans, et on voit pas directement, il n'y a pas de vision directe des parties génitales. Bon, mais ça, c'est un critère visuel qui ne vaut rien quand on parle de ce qu'on vit à la première personne du singulier, puisque à la première personne du singulier, si c'est moi l'acteur de la scène, et que c'est une scène réelle, et que ce n'est pas une fiction, eh bien, on fait les mêmes choses. Donc, qu'est-ce qui fait que un baiser peut être, par exemple, pornographique ou une sodomie érotique? Quel est le critère de distinction si c'est pas le contenu des actes? Je fais une hypothèse, c'est une proposition, hein, plus qu'une, une règle générale, mais mon hypothèse, c'est que c'est une affaire de rythme et que donc l'érotisme est lent et la pornographie
est rapide.
L'érotisme, la lenteur est nécessaire à l'érotisme parce que dans la lenteur, ce qui se passe, c'est que les petites perceptions ou les subtilités dont je parlais tout à l'heure se détachent. C'est ce qu'on appelle en philosophie les kalia, c'est-à-dire vraiment les petites perceptions, les détails. Quelque chose vraiment comme le grain de la peau, des nuances du souffle. Et la pornographie, évidemment, si le but c'est d'atteindre le stimulus maximal et puis de le maintenir le plus longtemps possible, on va gagner sans doute une forme d'excitation. Je suis pas anti-pornographie, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on va perdre ces kalia, on va perdre ces petites nuances, on va perdre le sens de la nuance. Ce que je comprends du drill, si ça correspond au moment que j'imagine dans les chansons d'Eminem, c'est-à-dire ces moments où effectivement les syllabes se télescopent en fait, elles sont articulées mais on ne comprend plus rien. Ça ressemble un peu à la pornographie ultime, c'est-à-dire au fait de vouloir aller tellement vite qu'il se passe plus rien. C'est-à-dire à la rigueur, on pourrait très très bien imaginer que non seulement on va très très vite, mais qu'on va tellement vite qu'en fait plus personne ne sent plus rien, ou alors de la douleur. Et là, on a un peu tout perdu en cours de route. C'est sans doute juste avant que se trouve la bonne régulation du régime pornographique, juste avant ce moment où ça devient une sorte de pilonnage mécanique, mais sans sensation.
Ouais.
Alors, on voit bien que là, notre société ou notre civilisation nous conduit quand même à préférer la pornographie à l'érotisme. On n'est pas dans une époque qui cultive beaucoup l'érotisme.
Et je suis d'accord.
C'est dû à l'accélération généralisée. C'est pas tellement dû à la sexualité en soi, c'est dû au fait que on envoie 70 à 90 mails par jour, qu'on a des interactions avec beaucoup de gens. Au fond, la pornographie, c'est un régime temporel du sexe qui correspond à notre manière de faire.
Bien sûr.
En fait, comme on est tellement, surtout dans les centres-villes, je veux dire, comme on est tellement accéléré, comme on veut faire beaucoup de choses, comme on a ces vies très intenses, on reproduit la même chose dans le sexe et on perd tout l'érotisme.
D'ailleurs, vous avez vécu à la campagne, vous êtes revenu à Paris, je pense. Enfin, après, je ne vous pose pas de questions sur votre manière de vivre, mais quand vous avez été appelé, je crois en 2006 ou 2007, pour prendre la rédaction
2005.
En chef de Philosophie Magazine, vous avez dû revenir à une vie urbaine. Vous le vivez bien ou c'est compliqué?
Oui, ça a été très compliqué au début de revenir. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé une forme d'équilibre. Mais je dois dire que dès que j'ai pu, j'ai aussi repris une maison dans la région où j'avais vécu, au sud de la Bourgogne, pour avoir la possibilité de m'échapper. La question de la vie en ville... moi, je lui trouve quand même des agréments. J'avais fait un livre justement qui s'appelle « Voyage au centre de Paris », qui était pour moi une première tentative de me réacclimater à la grande ville et à la vie parisienne, donc d'explorer toute l'histoire de Paris et toutes les nuances. Donc ça c'était intéressant, mais je dirais que la question de la vie urbaine, c'est le risque d'être blasé, c'est-à-dire par excès de stimulation nerveuse, un peu ce que je disais à propos de la pornographie. On est très stimulé, donc on doit fermer son regard. On doit souvent les gens qui vivent à la campagne vous disent je suis allé 2 jours à Paris, je suis revenu, j'étais épuisé.
Ouais.
Et en fait c'est vrai, ils sont épuisés parce que ils n'ont pas de bouclier, donc ils arrivent.
C'est ça.
Ils n'ont pas la cuirasse qu'a le citadin.
Toutes les écailles sont ouvertes. Enfin, tous les capteurs sont ouverts.
Et donc il y a trop d'informations, il y a trop d'interactions, il y a cette nervosité générale qui est dans l'air. Et on voit bien que ça crée un sentiment de fatigue, de perte d'identité, de ne plus savoir où on en est, d'être déboussolé, en fait d'avoir envie de fuir.
Ce qui a été le cas aussi pour beaucoup de gens post-confinement, parce que finalement le confinement nous a obligés à vivre en vase clos pendant 2 mois et demi, je crois, enfin je ne sais plus. Beaucoup de gens ont décidé de partir, enfin, c'est certainement lié à ça, c'est-à-dire qu'on a redécouvert ce que c'était que de vivre en cocon. Et boum, cette surexposition a peut-être forcé les gens à quitter Paris. Enfin, il y en avait chez lesquels c'était latent, mais c'est vrai qu'il y a eu un mouvement quand même, proche. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui ont décidé de quitter Paris, énormément.
Oui, le risque que fait courir la vie urbaine, en fait, c'est exactement comme dans le cas de la pornographie, c'est le risque d'être blasé. En fait, c'est-à-dire que comme il faut se doter d'une carapace un peu plus grande pour ne pas, par exemple, simplement le fait de ne pas être heurté par le, euh, pas, par le bruit. La vue. Non, mais aussi bruit. Par la vue des gens qui dorment dehors, enfin, de la misère qu'on voit dans chaque métro, dans chaque. On doit presque, par légitime autodéfense, cultiver une forme d'indifférence.
L'indifférence qui est atroce.
Bah, ça s'appelle être blasé. Et donc, effectivement, cette possibilité de se fermer à la relation avec l'autre, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à cultiver. On voit bien comment au pôle avancé du système, notre société qui accélère, cultive des attitudes. On pourrait dire un mot qu'on emploie souvent, mais dans un sens détourné de son sens philosophique originel, c'est une forme de cynisme. En tout cas, un détachement, une indifférence et en même temps une frénésie. Frénésie plus indifférence au monde. Quelque chose d'un peu étrange comme serait le fait de vivre dans un vide agité. Et on voit bien qu'il y a des formes de sexualité qui correspondent à ce vide agité.
C'est vrai. Comment vous arrivez à gérer tout ce que vous faites ? Enfin, ma question est un peu trop large peut-être, mais voilà, vous avez quand même, vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, donc c'est un mensuel, on peut le préciser quand même. C'est énormément de travail, je crois qu'il y a plus de 100 pages. Enfin, en parallèle, vous écrivez des livres, vous avez une vie de famille. Enfin, voilà, comment vous organisez votre temps ? J'ai cru comprendre que vous étiez très lève-tôt. Non.
Je dors pas forcément beaucoup. En tout cas, avec l'âge, je dors de moins en moins. Je suis un peu comme les personnes âgées. J'arrive en 5-6 heures à refaire mon plein d'énergie.
Vous avez de la chance.
Et non, la question, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de hiatus entre les différentes c'est activités. Ça. Mais au risque de vous surprendre, le week-end, je fais rien. Je fais absolument rien.
Ah d'accord.
Bah, rien du tout. Non, je
vous êtes très productif.
Non, je peux travailler... jusqu'à 18h parfois en semaine, mais parfois ne rien faire. En tout cas, chaque semaine, il y a des jours et des soirées où je fais rien.
Mais c'est intéressant.
Rien.
C'est intéressant.
Je crois que, en fait, c'est par rapport au vide agité dont je parlais tout à l'heure, c'est important. Je
vois bien qu'il
y a...
Du vide non agité.
Comment ?
C'est important d'avoir du vide non agité.
Ben, ce qui est important, je crois, c'est de fractionner, c'est-à-dire de ne pas être à... Ce qui s'est passé avec la technologie, c'est que le temps de travail et le temps de loisir sont devenus pour eux. Nous avons sur nous donc un téléphone portable, parfois un ordinateur portable, donc nos mails de travail, tout nous accompagne tout le temps. Et donc si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver dans une situation de fusion du travail et de la vie, où on n'est jamais en extériorité par rapport à ses préoccupations professionnelles. Or, si on vit de cette façon-là, on n'a plus de ressources créatives. Pour retrouver des ressources créatives, il faut quitter complètement le souci professionnel. Et quitter le souci professionnel, on peut le faire par le sommeil, on peut le faire par le sport, on peut le faire par l'ivresse, on peut le faire par le sexe. On peut le faire tout simplement en ne faisant rien.
Oui, bien sûr.
C'est de ces moments-là que naît la régénération des forces productives. Et
puis
pas
la créativité.
Dans... Oui, je crois. Oui.
Alexandre, je finis toujours mes interviews par les mêmes questions, à savoir, est-ce que vous auriez par hasard, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, un coup de cœur ? Ça peut être un coup de cœur littéraire, artistique, musical, peu importe. Je vous laisse le temps de réfléchir. Ensuite, il faudrait un coup de gueule. Là, pareil, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Bon. Et ensuite, c'est votre vision de la France, en sachant que ma question n'est pas politique. Je me suis fait... à plusieurs reprises critiquer là-dessus, mais bon, peu importe, je continue de la poser, mais c'est pas du tout une question politique, en fait, la vision de la France.
Alors, voilà. Coup de cœur, je vais parler de quelque chose de récent, hein. Vraiment, la semaine écoulée, je lis toujours beaucoup, mais j'avais jamais lu Sarr, l'auteur sénégalais qui vient d'avoir le Goncourt. Il se trouve que je l'avais pas rencontré, j'ai lu Deux purs hommes, donc sur un roman sur la l'homosexualité au Sénégal, incroyable à la fois par sa langue, par la qualité de la dramaturgie et puis par le courage politique inhérent à la démarche. Ça, c'est un vrai coup de cœur récent. Coup de gueule peut-être un peu lié à mes préoccupations du moment. Je ne comprends pas pourquoi le législateur laisse faire. J'ai parlé des sites porno. Moi, je suis pas anti-porno en soi, mais il y a un problème, c'est la catégorisation ethnique. Il se trouve que Pornhub, qui est le troisième site le plus visité en France, hein, après Google et YouTube. Donc, et c'est en France, mais dans tous les pays du monde.
C'est vrai?
Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, regardez, les sites pornographiques sont parmi les plus visités immédiatement après les moteurs de recherche et YouTube partout dans le monde, y compris dans les pays où l'accès à ces sites est illégal, comme dans une partie du monde arabo-musulman. Donc, c'est pas, oui, je suis pas en train de parler d'un fait latéral, je suis en train de parler d'un fait social, central, massif. Mmh. Et en fait, sur ces sites, les catégorisations ethniques sont omniprésentes. Et en plus, on colporte des clichés racistes, c'est-à-dire que, gros, l'homme non blanc, ben, il est animalisé, hein, grosso modo. Mmh. Enfin, l'homme noir est présenté comme un peu plus animal que le blanc, ce qui est juste hallucinant. La femme asiatique comme soumise, enfin. Et dans les statistiques des livres Pornhub, il est affiché qu'en France, la requête la plus fréquente, c'est des requêtes avec beurette, etc. Donc ça veut dire que les gens vont chercher des catégories ethniques. Là, je crois que c'est interdit dans la sphère professionnelle. On ne supporte pas d'une société qui ferait des fiches ethniques.
Pourquoi ça l'est pas
Pourquoi on l'autorise là
Bien sûr.
Moi, je trouve qu'il y a un problème et que c'est pas un problème de censure. Il ne s'agit pas d'interdire ce matériel pornographique, mais il s'agit d'interdire à mon sens, il faudrait éliminer cette classification qui est très problématique parce que ça soude le cliché raciste au désir. Et en fait, on voit bien que dans la violence du racisme, il y a quelque chose qui est libidinal. On le sait si on est lecteur de Faulkner. Moi, Faulkner, c'est un de mes écrivains préférés. Ce qu'on sent dans tous les romans de Faulkner, c'est que dans le sud des États-Unis qu'il décrit, il y a une attirance très forte, un magnétisme, c'est particulièrement clair, par exemple, dans Lumière d'août, entre les Blancs et les Noirs. Parce que, en fait, les Blancs ont eu des nounous noirs, et donc le contact des peaux est là depuis toujours, et en même temps, il y a un régime de ségrégation dans le sud dont parle Faulkner. Et on voit bien qu'il y a une tension amoureuse et érotique qui existe et qui va mener à des lynchages chez Faulkner. Or, on voit bien que là, on reproduit la même chose, c'est-à-dire qu'on soude le cliché raciste au désir, et c'est dangereux. Donc, voilà, ce serait un coup de gueule. Et après, j'ai oublié la troisième question.
Vision de la France.
La vision de la France.
Ouais.
Ça, c'est vrai que c'est...
C'est trop large, peut-être.
Non, c'est drôle. Je viens d'avoir une commande d'article de la part du 1 pour le numéro 400 où il me demandait de qualifier le bonheur français. Et en fait, pour avoir un petit peu voyagé, moi, dès que j'ai pu m'émanciper, enfin, vous l'avez peut-être compris.
Le journal d'Éric Fotorino, c'est ça ?
Oui. Ouais. Vous avez peut-être pu le deviner d'après mes réponses précédentes, mais j'ai pas de très grands sentiments nationalistes. Et dès que j'ai pu acquérir une autre nationalité que la nationalité française, je l'ai fait. Donc, j'ai acquis par mariage la nationalité italienne. Et en fait, si je pouvais avoir encore une troisième nationalité, ça m'irait très bien. Ça me va de ne pas être assigné à une seule nationalité. Alors... ma vision de la France, c'est quand même que c'est un pays dans lequel il y a des mœurs faciles. Il y a quand même un libéralisme sexuel, un libéralisme érotique qui est très appréciable en sortant de la lecture de Sarr qui parle du Sénégal et de la violence qui s'exerce à l'égard des homosexuels. Je me dis, mais quelle chance on a, même si l'homophobie existe en France, mais quelle chance d'avoir cette liberté de mœurs. Et c'est un pays dans lequel la littérature a de l'importance et la philosophie aussi. Philosophie Magazine existe ici, est un journal populaire.
Et bravo, parce qu'en plus c'est un magazine indépendant, il faut le préciser quand même, et vous n'avez pas eu de mauvaises heures. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un magazine qui fonctionne bien.
Oui, qui fonctionne bien, mais c'est possible aussi parce que le lectorat est là, c'est-à-dire que c'est pas parce que le journal a des mérites, c'est parce que la philosophie ou la littérature occupe cette place en France. Mm-hmm. Ce serait pas du tout aussi évident.
Aux États-Unis.
Oui, les États-Unis, il y a une grande presse intellectuelle. En Angleterre, peut-être ce serait complexe. Oui. Alors, voilà, il y a du vin. Pour parler des choses, il y a du bon vin en France. Alors, et accessible à un prix pas trop coûteux. C'est-à-dire que je dirais que entre 5 et 15 euros, on peut avoir vraiment une très bonne bouteille de vin. C'est vraiment pas le cas partout dans le monde. Et enfin, il y a des paysages, il y a la possibilité d'avoir accès à de la nature. Et donc là, il y a quatre ingrédients, sans vouloir être trop chauvin, quatre ingrédients intéressants du bonheur, paysage, littérature, vin et mœurs un peu légères.
Bon. Est-ce que je peux ajouter une question ? On n'a pas vraiment écoulé complètement notre timing. J'ai ajouté en fait une question depuis très peu de temps. C'est un conseil de parents. Quand j'ai des profils, des personnages ou personnalités exceptionnelles face à moi, qui d'autant plus ont 5 enfants, J'avoue que j'ai une question un peu bête. Est-ce que vous auriez des conseils de parents ?
Oui, il y a un débat philosophique sur la nature de l'éducation. Un peu, pour le dire simplement, c'est Platon ou Aristote. C'est Platon versus Aristote. On baigne dans une conception de l'éducation qui est héritée de Platon. On s'imagine que ce qu'on va transmettre, c'est ce qu'on va dire. Et donc, en fait, donc c'est l'éducation par le dialogue et la conversation. Donc, on a cette idée qu'on doit expliquer le monde aux enfants, leur parler très tôt. C'était une idée, d'ailleurs, largement renforcée par le travail de Françoise Dolto, par exemple. Et donc, on doit parler aux enfants sans cesse, leur expliquer, leur transmettre des valeurs, leur expliquer ce qu'on pense, ce qu'on croit, etc. Mais moi, je me sens plus proche d'une vision aristotélicienne qui aurait tendance à dire que la clé de l'éducation, c'est le mimétisme.
C'est l'action.
Les enfants se fichent de ce qu'on raconte, ils regardent ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous empilez, par exemple, des livres dans la chambre de vos enfants en leur disant mais c'est bien de lire, mais qu'ils ne vous voient jamais en train de lire, ils ne liront pas. S'ils vous voient en train de lire et qu'ils voient que pour vous ça a un sens et que ça a une valeur, ils le feront. On a la même ambivalence vis-à-vis des écrans, nous autres adultes. On essaye souvent de dire aux enfants...
Touche pas le téléphone alors qu'on est dessus toute la journée.
Voilà, et qu'on est sur écran toute la journée. Et donc, en réalité, la charge d'être parent, à mon avis, c'est moins de se dire quels sont les beaux discours qu'on pourrait tenir à ses enfants, parce que ça, des beaux discours, on peut toujours... Mais c'est plutôt... Il y a un vrai problème du côté de l'exemplarité ou du modèle en acte. Et donc, le seul conseil que j'aurais donné, moi je pense que l'éducation, elle se bricole par la proximité, par quelque chose d'assez charnel, par quelque chose d'assez inarticulé, et par l'intimité, le fait en fait d'avoir l'autre sous les yeux tout le temps. Quand on est enfant, on a ses parents sous les yeux, et en fait c'est ce qu'ils font qui est décisif.
Alexandre, merci beaucoup. Je souhaite une très belle réussite à votre livre. On le rappelle, Apprendre à faire l'amour aux éditions Alary. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.